Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, gestion de la pandémie et prédictions politiques pour 2022, mais surtout géopolitique des JO de Pékin à venir. Bonjour à tous. Bonne année à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite les meilleurs vœux, la santé, la réussite et tout le tralala qui va avec. Aujourd'hui, je reçois deux invités, Olivier Jacques de l'Université de Montréal. Avec lui, on va discuter de la gestion de la pandémie et des prédictions politiques pour 2022. Et je reçois aussi Yann Roche de la chaire Raoul Dandurand et professeur au département de géographie de l'USCAM. Avec lui, on va discuter de l'utilisation des JO d'hiver par la Chine dans le continuel rétablissement de son soft power. Notre premier invité du jour, c'est Olivier Jacques, professeur adjoint au département de gestion, d'évaluation et des politiques de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour Olivier et bonne année.
Bonjour Julien, bonne année.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc ma première question, donc avec vous, en fait, on va parler un peu de l'analyse des dernières politiques en matière de santé publique, donc comme la gestion de la pandémie au Québec, et surtout faire quelques prédictions politiques pour 2022, parce qu'on est passé l'heure des bilans 2021, on passe directement aux prédictions 2022, c'est quand même une année d'élection. Donc tout d'abord, donc concentrons-nous à ces problématiques de santé publique. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la pandémie au Québec pour ces cinquièmes vagues?
Moi, mon impression, c'est qu'on est allé un peu rapidement avec l'ouverture l'ouverture à 100%, par exemple, des restaurants et des bars, des salles de spectacle. Moi, je me rappelle, je suis allé au Métropolis voir un spectacle en mi-novembre. Puis c'est un peu surréel de voir une salle pleine comme ça.
Alors qu'on avait toujours la vague Delta et qu'on voyait un peu l'Europe, comment ça se combinait avec Omicron.
Exactement. C'était avant Omicron. Je pense qu'Omicron a pris un peu tout le monde par surprise, mais on voyait qu'en Europe, il y avait quand même vraiment beaucoup de cas. Et que depuis le début de la pandémie, là, on dirait qu'on est juste en retard d'un mois sur l'Europe. Là. On dirait qu'il se passe la vague dont la suite d'un mois à peu près après l'Europe. Donc, on avait aussi enlevé les masques en classe pour l'ensemble des élèves au secondaire et au primaire. Donc ça, ces mesures-là qui avaient été prises peut-être un peu en regardant les sondages plus que regardant la santé publique. Nous ont mis dans une position plus difficile pour affronter Omicron.
Bon, on peut revenir un peu sur les sondages et autres, mais j'ai pu voir un peu un tweet de Christine Saint-Pierre, la députée libérale cette semaine, qui disait que par un de ses contacts proches d'une société de sondage, qui montrait qu'une grande partie des mesures qui vont être annoncées, qui ont été annoncées hier jeudi, avec la fin du couvre-feu, le retour des enfants à l'école, même aussi l'arrivée d'un passeport vaccinal pour les grandes surfaces comme non alimentaires, principalement non alimentaires comme Walmart et Canadian Tire, sont prises à coup de sondage. Donc ça vient à la dépolitisation et la désopinisation de la pandémie. Est-ce qu'il y a un problème avec ça?
C'est là qu'on... Je pense que le gouvernement, en même temps, lui, le gouvernement regarde les sondages lorsqu'il prennent des décisions de santé publique. Mais en même temps, c'est normal de regarder un peu les sondages. Si on prenait uniquement les décisions de santé publique, sans se demander si les gens seraient d'accord. Ben c'est sûr qu'on aurait une moins bonne adhésion de la population aux mesures sanitaires, une plus faible popularité du gouvernement, moins de confiance envers le gouvernement. Donc, c'est pas un problème en tant que tel de regarder l'opinion publique. Par contre, c'est sûr que il y a une nuance, il y a une espèce d'équilibre à aller chercher qui est pas facile à obtenir entre les recommandations scientifiques et l'opinion publique. C'est comme un espèce de débat fondamental entre la démocratie et la technocratie, si on veut.
On le voit en plus, dernièrement, avec le couvre-feu qui a, on va dire, assez mortifié, mis à mal l'acceptabilité sociale des mesures sanitaires, qu'il a duré même pas 2 semaines, plutôt qu'il a duré un peu plus de 2 semaines, et qu'il l'enlève directement pour un peu sauver, réinciter les gens à, vous voyez, on enlève ça, on s'est trompé, s'il vous plaît, quand même, respectez les règles, réduisez vos contacts, c'est pas fini, certes, on atteint le pic cette semaine, mais il faut continuer à se battre, il faut continuer un peu à suivre au maximum les règles sanitaires. On a eu la démission du docteur Arruda en début de semaine. Est-ce qu'on doit considérer cette démission comme une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que ça va permettre un peu de relancer une meilleure dynamique au niveau de la santé publique?
Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Là, je pense qu'il y avait plusieurs commentateurs qui voulaient que le docteur Arruda parte. Oui, peut-être qu'une nouvelle personne, ça peut changer un peu les choses. Mais à la fin, je pense que les institutions demeurent les mêmes, le gouvernement demeure le même. Je m'attends pas à ce qu'il y ait des changements fondamentaux qui soient causés par l'arrivée d'un nouveau directeur de la santé publique. Là, cette personne-là arrive dans des institutions qui sont là. Cette personne-là est dans la cellule de crise et
depuis assez longtemps.
Va être autant politisée finalement que le docteur Arruda l'était.
Donc au niveau de la politisation de la gestion de la crise pandémique, qu'est-ce que vous avez pu penser cette semaine des appels de l'opposition pour une nomination du nouveau directeur de la santé publique aux deux tiers de l'Assemblée nationale? On voit qu'ils ont été très présents sur ce sujet, sur le retour des réunions d'information communes aux chefs de la majorité et aux chefs aussi des oppositions reconnues à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce sont des appels qui sont accueillables avec la situation actuelle ou c'est vraiment un peu pour essayer d'être de nouveau le plus présent possible parce qu'avec une nouvelle vague aussi forte qu'Omicron, on revoit de nouveau Legault omniprésent dans les médias, donc ce qui, à l'approche des élections, est un avantage pour Monsieur Legault?
Oui, certainement. Puis c'est sûr qu'ensuite, il y a des questions politiques par rapport à ça. Bon, c'est sûr que le gouvernement Legault veut avoir les projecteurs sur lui. L'opposition veut avoir un peu son mot à dire, mais je pense que juste d'un point de vue démocratique, c'est important que l'opposition ait son mot à dire sur les décisions. Dans la première vague, il semblait y avoir un peu plus de consultations avec les oppositions. Et c'est un gouvernement qui n'a pas vraiment de problème à continuer à gouverner par décret. Donc moi, j'accueille favorablement plus de prises de décisions démocratiques qui inclut les groupes d'opposition. Certainement, je l'accueille favorablement.
Ça permettrait en plus, je pense, de restaurer, on va dire, la confiance envers les institutions démocratiques, parce que beaucoup de personnes, même des personnes proches de la CAQ, trouvent un peu problématique cette continuation de gouverner par décret. Et on va dire, à l'approche des élections, si en plus il va falloir inciter des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller voter ou qui sont un peu réfractaires à aller voter, à participer à la vie démocratique du Québec, un retour de consultation, un retour d'une véritable participation des oppositions peut aider.
Exactement. Puis là, c'est sûr qu'on n'est pas, c'est pas une situation très, très démocratique là, en ce moment. Donc, le moins ça dure longtemps, le mieux aussi.
D'un point de vue politique, cette fin de semaine, on a un grand sondage qui est censé sortir sur l'état des forces politiques au Québec. Il sort ce samedi, normalement. À quoi s'attendre? À quel type de carte s'attendre? Est-ce que vous pensez que les dernières semaines, avec les bourdes caquistes, peuvent réduire, la majorité possible que la CAQ pourrait atteindre au mois d'octobre?
Ben, on dirait, j'ai vu un sondage cette semaine qui montrait que le taux de popularité de François Legault, ou une mesure qui parlait de, est-ce que vous pensez que le Québec gère bien la pandémie, avait diminué un peu. C'est normal. Ensuite, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un parti qui est trop en avance. Je pense que il y a aucun parti qui veut être autant en avance. C'est dangereux pour lui. Je peux pas, mais François Legault lui-même le dit, il va y avoir un resserrement d'ici l'élection, la CAQ va pas nécessairement là
écraser les élections.
C'est ça. Moi, je suis pas convaincu là que la CAQ va faire un plus que 100 sièges. C'est pas fait encore. Et l'année, il va se passer beaucoup de choses là, cette année, donc on le voit déjà maintenant. Je pense que la situation est volatile. Donc, et on verra comment l'opposition aussi va. Est-ce qu'il y a un parti d'opposition qui va se présenter comme l'alternative?
Bah c'est ça. Vu l'état des oppositions qui sont quand même, on va dire, délabrées ou plutôt dans un état assez faible, le PLQ qui continue à se chercher alors que les élections sont au mois d'octobre, et une certaine baisse, stagnation, voire possible baisse pour QS et le PQ qui continuent ensuite à être assez dans un mauvais état, malheureusement ou heureusement pour ses adversaires. Est-ce que cette volatilité pourrait les aider à se remettre en scène à l'approche des élections, ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir quand même un tassement en faveur du parti au pouvoir d'ici 2022? C'est un peu de la politique fiction, mais on voit souvent quand même des dynamiques, cycle électoral après cycle électoral, qui se répètent.
Ben, moi, je pense que ça va être une élection qui va être très intéressante. De toute façon, la CAQ risque de gagner. Mais ensuite, la grande question, ça va être, est-ce que Québec solidaire se positionne un peu plus au centre et devient un peu plus populaire qu'il l'a déjà été? Qu'est-ce qui se produit avec le PQ? Est-ce que le PQ s'éteint après cette élection-ci?
Ou est-ce qu'il reste en survie?
Est-ce qu'il maintient ses sièges ou s'éteint? C'est la question qui est importante, parce que ça va avoir beaucoup d'impact ensuite sur l'élection de 2026. Que se passe-t-il avec le Parti libéral? Est-ce que ils vont maintenir leur siège ou en perdre encore davantage. Ça va être une élection très intéressante de voir comment ça va se positionner. Avec tout le monde qui est un peu à gauche de la CAQ, finalement. Mais sans alliance potentielle entre ces partis-là.
Ce qui amène à une question sur la partielle de Marie-Victorin. Est-ce que vous pensez que ça va être une élection test où le statut de château fort péquiste, même si c'est un peu diminué, de Marie-Victorin rend cette élection plutôt pour est-ce que le PQ va réussir à conserver pour se redonner une nouvelle dynamique à l'approche des élections générales d'octobre, ou est-ce que finalement on est dans une élection qui sera plus importante qu'on peut le penser?
C'est sûr que si le PQ gardait ce siège-là, ça lui donnerait quand même un air d'aller. Je m'attendrais à ce que la CAQ l'emporte, ce siège-là. Mais on verra. Ensuite, s'il y a des dynamiques locales, là, ça va être quoi le taux de participation? Ça va être quoi l'état de la pandémie à ce moment-là? Le candidat du PQ est quand même un candidat de qualité. C'est un candidat de qualité, Pierre Nantel. Mais c'est intéressant de voir que Paul Saint-Pierre Plamondon ne s'est pas présenté dans ce comté-là. Donc, probablement qu'il se dit que la victoire n'est pas acquise. En fait, le PQ a probablement n'a plus vraiment de comté Châteaufort, là, sauf peut-être Pascal Bérubé.
Mais parce que beaucoup de personnes avaient dit que plutôt la non-présentation de PSPP était liée au fait qu'ils ne voulaient pas trop se mettre dans cette arène à l'approche des élections, et que finalement une élection aussi proche de celle d'octobre ne servait un peu à rien dans le fait de se faire connaître un peu plus. Néanmoins, une présence à l'Assemblée nationale aurait pu aider quand même pour quelques mois, pour quelques semaines, aider PSPP à se faire mieux connaître quand même au niveau de l'opinion, plus d'interviews, plus de présence. Donc c'est quand même quelque chose qui rend, peut-être que leurs sondages internes sont mauvais, peut-être que leurs sondages internes sont on ne sait pas et autres, mais c'est quelque chose qui est problématique quand même pour le parti.
Mais si il savait qu'il allait gagner cette élection-là, il serait allé. C'est évident. Alors, ensuite, on peut rationaliser comme on veut, là, mais si le PQ était plus au niveau qu'il a été, disons, en 2014 ou en 2012, il devrait gagner Marie-Victorin, puis le chef aurait dû y aller. Là. C'est évident. Ensuite, on verra quel comté il va choisir lui-même. Et on verra. Moi, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être l'alternative progressiste à la CAQ en 2026. Est-ce que ça va être des anciens péquistes qui vont joindre des solidaires? Est-ce que ça va être le Parti libéral qui va se présenter comme une alternative un peu plus social-démocrate crédible? On verra. Je pense que c'est là le grand débat.
La reconfiguration. La reconfiguration, en fait, c'est peut-être pas pour cette élection, mais plutôt pour la prochaine, en fait.
Exact. Mais cette élection-ci va nous amener vers cette reconfiguration-là. Donc, on va le voir assez rapidement. Moi, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer avec Québec solidaire, avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est excellent en débat. Et j'ai hâte de voir est-ce que ce parti-là va pouvoir être perçu comme crédible par un électeur moyen hors de Montréal.
C'est ça.
C'est une question intéressante et je pense qu'on n'a pas encore la réponse à cette question-là.
La campagne risque de le donner avec des présences plus importantes des chefs, les débats, les face-à-face qui risquent potentiellement de créer cette nouvelle électorat et cette nouvelle carte. Parce que pour l'instant, on voit des sondages sortir, des cartes sortir, mais rien n'est figé tant que les vraies idées en campagne et les vraies oppositions d'idées en campagne seront faites au mois d'octobre. Merci beaucoup, Olivier.
En terminant, je rajouterais simplement la CAQ n'est pas du tout éternelle. Moi, je pense pas que François Legault va se représenter en 2026. Puis là, le champ va être plus ouvert. C'est là que c'est important pour les partis d'opposition de bien se positionner à l'élection de 2022.
Préparer l'après Legault.
Exactement.
Merci beaucoup, Olivier et Jacques, d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Je rappelle que vous êtes professeur adjoint au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. À la prochaine sur nos antennes. Merci beaucoup.
À la prochaine.
Merci. Notre deuxième invité, c'est Yann Roche. Yann Roche, vous êtes titulaire à la chaire Raoul Dandurand et professeur au département de géographie de l'UQAM. Avec vous, on va discuter des Jeux Olympiques d'hiver qui vont commencer sous peu, le 4 février, le vendredi 4 février, et termineront le 20 février, le dimanche 20 février. Donc avec vous, on va continuer de cette on va discuter de cette utilisation des Jeux Olympiques d'hiver par la Chine dans son continuel rétablissement de son soft power et de toutes les problématiques autour de ces Jeux. On a beaucoup parlé, par exemple, en fin d'année, du boycott diplomatique de ces Jeux et de ses conséquences. Donc, on va commencer un peu sur ça. Tout d'abord, pourquoi il y a eu un tel boycottage diplomatique qui a été annoncé? Quelles sont les réactions de la Chine? Mais surtout, est-ce que ça va servir à quelque chose?
Beaucoup de questions en une fois. Effectivement, bon, le retour sur le boycott diplomatique, c'est que c'était à l'origine, ou du moins c'était annoncé depuis un certain temps que la question des droits humains, c'est pas une question nouvelle en ce qui concerne la Chine. Mais depuis 2017, on commence à pointer plutôt du doigt le traitement qui est réservé à la minorité ouïghour dans l'ouest du pays, donc le Xinjiang, une minorité musulmane, dont on se demande s'ils ne font pas...
Une sorte de génocide, le
mot génocide a été utilisé, et puis certains l'ont un peu contesté, mais ils ont un traitement très très
assimilation sévère. Forcée.
Oui, et en plus qui est basé, alors officiellement d'abord dans un premier temps, quand sur Google des images ont montré qu'il y avait des camps qui étaient mis en place, d'abord la Chine a nié, puis ensuite elle a dit que c'était simplement des centres de formation professionnelle à grande échelle, et que c'était pour aider les Ouïghours à s'intégrer à la société chinoise, ce n'est pas leur langue maternelle le mandarin, et aussi pour lutter contre le terrorisme et l'islamisme qui développait dans la région. Donc c'était l'argument officiel, et très régulièrement, si on regarde les médias chinois ou pro-chinois, on revient très souvent sur l'idée que ce sont des mensonges qui sont perpétrés par les Américains et leurs alliés, donc il n'y a aucun problème. De toute manière, ce sont des affaires internes à la Chine, et que donc ça, personne n'a à s'en mêler. Donc depuis un certain temps, y compris au Canada, il y avait des voix qui s'élevaient de plus en plus contre ce traitement qui est réservé aux Ouïghours. Et l'idée d'un boycott avait été soulevée par plusieurs personnes, mais on a pu se rendre compte dans le passé qu'un boycott, notamment celui de Moscou et autres, n'ont pas forcément donné des bons résultats. Mais l'idée de marquer le coup, en quelque sorte, quand même, passait par un boycott diplomatique qui a été prôné d'abord par les Américains dans un premier temps, puis ensuite le Canada a suivi en même temps que l'Australie, le Royaume-Uni.
Les alliés naturels, un peu.
Pratiquement les Five Eyes, comme on les appelle, là. L'alliance des services de renseignement qui date des années 40. Et donc là, ces alliés-là se sont joints un peu après les États-Unis, ce qui a d'ailleurs mis un peu le Canada dans une situation difficile, parce qu'on avait l'air de suivre eux, excusez-moi l'expression. Et l'idée, donc, consiste à simplement ne pas envoyer de représentants officiels pendant les Jeux, et notamment la cérémonie d'ouverture, ce qui n'est pas une mesure extraordinairement violente, on va le dire.
Qui marque un peu une désapprobation de la politique du pays hôte au moment X.
Totalement. D'ailleurs, en plus, on pourrait souligner le fait que en 2008, lors des Jeux de Beijing, certains pays avaient, sans que ce soit de manière aussi formelle, certains pays avaient montré un certain désaccord vis-à-vis de la politique chinoise, et le Premier ministre canadien de l'époque, Stephen Harper, avait pas été présent. Il avait fait en quelque sorte son boycott diplomatique, et ça lui avait été reproché. Donc, pour en revenir à votre question sur la réaction de la Chine était outrée. Étaient très très en colère, mais en même temps, ils ont eu un double langage en quelque sorte. D'un côté, ils disaient que c'était inacceptable, c'était une politisation totalement inacceptable des Jeux. Et de l'autre, ils disaient que de toute façon, c'était pas grave, les gens en question n'étaient pas invités, et que il n'y avait pas de problème, la fête sportive aurait lieu quoi qu'il advienne, et que c'était pas des alliés des États-Unis qui allait changer quoi que ce soit. À noter d'ailleurs que l'Europe, et notamment la France, s'est abstenue de suivre le mouvement. Notamment Macron a mentionné le fait que, selon lui, un boycott diplomatique était beaucoup trop symbolique. Et pour revenir un peu à votre dernière question, ça sert pas à grand-chose autrement que de marquer le coup à une certaine désapprobation. On s'attend pas à ce que ça change quoi que ce soit sur place.
Quelque chose qui a été assez notable, ça a été un peu le sort de réprobation du CO. On sait depuis quelques années que le CO essaye de limiter les expressions politiques. On sait qu'il y a des pressions de la part des pays hôtes pour cette limitation des expressions, mais aussi pour le CEO d'autre part, de vouloir un peu dépolitiser les Jeux, mais surtout plaire et un peu mieux vendre les contenus, parce qu'on sait que souvent trop d'expressions politiques peuvent un peu ne pas être appréciées par certains diffuseurs qui souhaitent voir du sport, parce qu'après on voit les réactions sur certains réseaux sociaux. Donc c'est un peu marrant, plutôt drôle, de voir le CEO s'exprimer encore plus fort cette année contre ces désapprobations que lors de hautes désapprobations et boycottages précédents.
Ben, je vous dirais que le CIO, je riais pendant que vous le disiez, excusez-moi, mais c'est parce que le CIO a toujours tenu ce discours de, ça fait, depuis le début, le discours de dépolitisation ou d'apolitisme, et c'était toujours quelque chose qui n'a jamais vraiment été respecté.
C'est ça.
Que ce soir, on se souvient des jeux de 1936, on se souvient donc des boycotts de Moscou, puis ensuite de Los Angeles, et d'ailleurs, il faut préciser une chose, vous parlez du soft power chinois. On a souvent tendance à mentionner qu'un peu la récupération politique des jeux, c'est l'apanage des dictatures, des régimes autoritaires. Or, on va se le dire, tout le monde, tous les États aiment bien récupérer des bons résultats olympiques, même des démocraties.
De manière politique. Ou même,
oui,
même une belle organisation. On a pu voir, par exemple, l'Angleterre qui s'est gargarisée pendant de nombreuses années, de nombreux mois, après la réussite de ces jeux, et qu'il l'a utilisé un peu sur le Londres flamboyant du début des années 2010.
Oui, et le Canada avec Vancouver, où il y a une résurgence du nationalisme, parfois même à la limite de l'excès.
Oui.
D'ailleurs aussi toute une stratégie pour maximiser les chances de podium de la part des athlètes canadiens, pour montrer à quel point le Canada était en train de devenir une superpuissance internationale. On était à l'extrême limite de l'excès patriotique, et ça a été souligné au moment de 2010. D'ailleurs, en plus, Vancouver, il y a eu un nettoyage du centre-ville de Vancouver pour ne pas que l'on voit des itinérants et tout. Donc il y a une
limitation des manifestations aussi.
Voilà. Donc on n'est pas juste dans le régime dictatorial qui en profite. Les exemples donc qu'on a cités pourraient donner à penser que c'est le cas. Et les États-Unis aussi jouent beaucoup à ce jeu-là aussi.
Donc au niveau de l'utilisation des jeux dans le cadre de la résurgence chinoise et de son soft power, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que malheureusement ces jeux se déroulent en pleine vague Omicron, et que l'organisation des jeux en eux-mêmes pourrait être court-circuitée par cette vague, et donc peut-être limiter la sorte d'utilisation de ces jeux par la Chine dans le cadre de sa résurgence. Et on voit un peu la Chine en ce moment qui fait tout en sorte, avec la situation sanitaire, donc des quarantaines poussées à l'extrême, une sorte de limitation de la formation sur place, vraiment pour faire en sorte que ces jeux soient maintenus et que la puissance qui sera diffusée par ces jeux soit la plus forte possible. Est-ce que quand même cette organisation et cette pré-organisation et ce pré-contrôle pré-jeu peut lui nuire dans le cadre de sa diffusion de soft power?
Non, je penserais pas. On pourra dire qu'à ce niveau-là, en termes de critique, le régime chinois a une attitude un peu téflon. Il n'y a pas grand-chose qui accroche avec eux, quoi qu'il advienne. En même temps, disons, le fait que les mesures sanitaires extrêmement strictes qu'ils ont commencé à mettre en place, que vous mentionnez avec raison, ça va être au contraire une manière de montrer à quel point
on gère mieux la COVID.
Ce que leurs adversaires ou leurs concurrents n'ont pas été capables de faire. Et il faut mettre aussi dans un contexte le fait que on est quelques mois, et les gens sont souvent un peu surpris, on est un peu plus de 6 mois après les jeux de Tokyo. N'oublions pas à quel point la concurrence et la rivalité entre la Chine et puis le Japon est très très grande. Donc l'idée est encore, en plus, disons, d'une stratégie chinoise proprement dite, de faire mieux que les Japonais.
Donc à ce
niveau-là, c'est sûr que dans l'esprit des dirigeants chinois, c'est en arrière de toutes leurs décisions, c'est de dire, là où les Japonais ont été contestés, là où les Japonais ont parfois eu des cas, eh bien nous, on va faire beaucoup mieux que ça.
Donc revenons un peu sur l'utilisation des Jeux Olympiques dans le cadre de la politique chinoise. Comment ces Jeux vont se placer, vous pensez, dans cette réaffirmation autour de son progrès technologique, de sa croissance qui reste forte malgré la Covid, du projet de nouvelle route de la soie et surtout de sa affirmation assez forte dans la région Asie-Pacifique. On parle bien sûr de Taïwan, de la mer de Chine. Comment vous pensez que la Chine va vouloir utiliser ces Jeux?
Je pense que ça fait partie, sans être dans le secret des dieux du parti, je pense que ça fait vraiment partie, vous l'avez souligné avec grande pertinence, et je pense que pas beaucoup de gens ont intégré ces jeux dans toute cette espèce de stratégie globale. Vous avez mentionné notamment les routes de la soie, cette montée, cette résurgence, cette présence en Afrique, etc., cette concurrence, cette guerre commerciale avec les États-Unis, guerre politique dans le sens de jouer auprès des différents alliés potentiels des Américains.
On va parler de l'Europe, où on va dire que l'Europe quand les États-Unis ont voulu tout faire pour que les dirigeants européens se joignent au boycottage, les dirigeants européens, en façon de parler, vous avez parlé de Macron tantôt, mais on peut parler aussi de Merkel, qui est à l'époque encore chancelière, ou d'autres dirigeants, comme les dirigeants, si je me souviens bien, italiens ou espagnols, Mario Draghi, et pour l'Italie, ils avaient tous dit non, on ne se joindra pas à ça, ça ne sert à rien, mais surtout, on sait que l'Europe, par derrière, essaye de jouer au milieu entre les États-Unis et la Chine pour garder des bons partenariats commerciaux entre les deux puissances.
Oui, et dans le cas de la France, en plus, ils ont les Jeux de Paris qui s'en viennent et ils pourraient avoir un retour de bâton, non seulement de la part de la Chine, mais aussi des alliés de la Chine. Mmh. Mais donc, pour conclure sur cet aspect stratégique global, les Jeux ne sont qu'un des, une des pièces du casse-tête, une des pièces du puzzle. Et c'est un élément important, notamment en termes de soft power, par rapport à cette montée de la Chine en tant que superpuissance sportive. Vous vous souvenez de la diplomatie du tennis de table dans les années 70. Bon, il y avait juste quelques sports dans lesquels les Chinois excellaient. Rappelez-vous qu'à Tokyo, la Chine termine deuxième au tableau des médailles, avec, je pense, une médaille d'or de moins que les États-Unis sont premiers. Et donc, ils ont depuis quelques décennies améliorer énormément leur performance. Leurs athlètes sont de très très haut niveau, mais aux Jeux d'été. Les Jeux d'hiver, c'était pas encore le cas. Et là, pour revenir un peu à votre question d'origine, en plus, le gouvernement chinois se gargarise, excusez-moi l'expression, du fait qu'ils sont le premier pays à organiser les Jeux d'hiver et les Jeux d'été dans la même ville. C'est en Chine que ça se passe. C'est encore une nouvelle manière de mettre de l'avant à quel point la Chine excelle. En plus, c'est dans un domaine où, pour le moment, elle n'est pas encore très performante, les Jeux d'hiver. Et Oui, tout à fait. Et en plus, les pays asiatiques qui sont actuellement très performants aux Jeux d'hiver ne sont pas très nombreux. Il y a les Japonais depuis le tout début. La République de Corée du Sud, c'est exactement. Et donc, il y a la Chine. C'est principalement ces trois pays-là. Et donc, à ce moment-là, c'est aussi une rivalité régionale.
C'est ça.
Passer devant leurs voisins et rivaux traditionnels et séculaires, même millénaires. Donc, vous voyez, il y a toute cette perspective qui peut se voir cet angle-là. En plus, une manière de vendre à la fois au CIO quand ils ont obtenu les Jeux et à certaines organisations commerciales à l'extérieur, c'est l'idée d'un marché des sports d'hiver qui se développerait
avec
beaucoup d'argent à se faire en Chine, justement, avec beaucoup de gens potentiellement qui achèteraient du matériel.
Merci beaucoup, Monsieur Roche, d'avoir répondu à nos questions ce midi.
C'est moi qui vous remercie.
C'était très intéressant. J'espère que ça aura permis à nos auditeurs de savoir un peu plus sur l'utilisation des JO d'hiver par la Chine. Je rappelle que vous êtes titulaire à la chaire Raoul Dandurand et professeur.
Par intérim,
excusez-moi. Et professeur au département de géographie de l'UQAM. Merci beaucoup et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.
Au revoir.
Merci à vous, c'était un plaisir de vous retrouver après cette pause hivernale. On se voit, on s'écoute plutôt la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Encore merci à Daniel derrière les micros pour sa réalisation. Merci beaucoup.